Bonjour Daniel, c'est Serge de Bruxelles. Alors voilà, c'est pour annoncer à tous les auditeurs de la Bastille, j'y suis, que la fiction n'est pas terminée. Le 21 janvier, à Bruxelles, à Saint-Gilles et Ixelles exactement, aura lieu une manifestation pour le rattachement de la Belgique au Congo. Je dis bien pour le rattachement de la Belgique au Congo. Alors, je donne rendez-vous à tous les auditeurs pour qu'ils se pressent en masse dans cette manifestation qui fait déjà date. Et tous les renseignements sont sur le site manifestement.be. Voilà, bon vent pour le rattachement de la Belgique au Congo.
Oui, ceci est un appel du FLPN. Malgré toutes nos exigences présentées auprès des autorités compétentes, telles que le ministère de l'Intérieur, monsieur le ministre Nicolas Sarkozy, monsieur le premier ministre de Villepin, monsieur Chirac, président de la République, tous ces appels sont restés sourds. Nous demandons dès aujourd'hui que dans les 48 heures qui suivent, tous les Papa Noël soient décrochés. Si ce n'est pas fait dans 48 heures, nous verrons obligés de prendre les mesures nécessaires afin que les autorités fassent leur devoir. Ceci était un appel du Front de Libération des Papa Noël.
Oui.
Appel important, appel à disparition, appel à la population. Aidez-nous à retrouver une dame un peu âgée. Cette dame prénommée Marianne, habillée de bleu et de blanc, sa veste de couleur rouge s'est égarée, elle s'est perdue en route, elle s'est perdue dans la nature, complètement égarée. On soupçonne quelques messieurs d'avoir entraîné cette dame à se prostituer, et même on peut observer des gens qui dorment sous tente pour s'assurer d'être les premiers à l'ouverture des hypersoldes de la République. C'était Gilles, de Tours. Ciao.
Bonjour, toute l'équipe. Bonne année à tous d'abord. Je suis Lynn, j'habite Amiens. Lynn d'Amiens, c'est voilà. Et je voulais savoir, parce qu'il y a eu une information concernant le vote de voter pour José Bové, mais il n'a parlé que d'Internet. Or, tout le monde ne possède pas Internet. Comment faire à ce moment-là pour voter pour lui? Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Par avance, merci et bon vent à toute l'équipe.
Oui, c'est Sébastien de la Savoie. Ça m'a fait bondir, parce que quand on entend quelqu'un qui est contre des appels pour savoir si on retrouve des enfants ou pas, que tout de suite on commence un peu à la démagogie, à aller dire que c'est Sarkozy, il y en a marre. Je veux dire, en plus à l'origine je crois que c'est les Canadiens qui avaient mis ça en place pour retrouver justement des gens qui avaient disparu. Et là c'est des enfants. Et si c'était ses propres enfants à ce monsieur, je pense qu'il serait content même d'entendre toutes les 10 minutes au lieu du quart d'heure. Ça, et puis pour Luc Besson, j'aimerais réagir aussi. Pour une fois qu'on a un Français qui essaye de faire quelque chose dans notre pays, plutôt que d'être asséné par des pubs McDo ou alors des films où ça explose et ça tue à tout va, pour une fois que c'est français, même si on peut acheter la fève Minimoys, moi je suis bien content. Hein. Enfin voilà quoi. Et puis depuis ce matin sur France Inter, j'écoute France Inter beaucoup, mais il y a beaucoup, Sarko, Sego, Sarko, il y en a marre. Si on parlait un peu des autres, je pense qu'ils ont aussi des petites idées à donner. Je ne suis pas du même bord que Daniel Mermet, mais bon, c'est pas grave. L'idéal, ça serait quand même de partager. Hein. Enfin bon, ça apparemment, ça a l'air un peu utopique. Merci, au revoir.
Finkielkraut, je t'écoute le samedi matin, comme je t'écoute aussi quelquefois. Il te vaut largement. Au moins, il a la lucidité, il ouvre les yeux, tu vois. Il voit ce qui se passe autour de lui, en toute objectivité. Toi, non. On se demande quel intérêt tu peux avoir, là, toi qui es juif, là, quand il n'y aura plus que ça dans le pays, là, qui vont éclater la gueule, comme ils ont éclaté les voitures, là, cet hiver, là. Hein, qui vont t'entuber, là, dans les tôles, là. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas revenir sur tes opinions, quoi, là? Faire de l'angélisme avec le bougnoule tout le temps, là. Qu'est-ce que tu fous en France, bordel? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais dégage, va les retrouver, va en Afghanistan, va voir Al-Qaïda là-bas, là. Il nous fait pas chier. T'as envie de te faire entuber, vas-y, mais fous-nous la paix. Espèce de traître.
Aïe. Bon, rassurez-vous, cher Alain Finkielkraut, vous avez d'autres défenseurs parmi les auditeurs qui ont écouté la basse où j'y suis hier. Pour résumer succinctement, nous avions hier une émission avec l'équipe du Monde Diplomatique et l'un des journalistes du Monde Diplomatique, Dominique Vidal, a fait une critique de l'émission du samedi dernier, l'émission d'Alain Finkielkraut, qui est chaque samedi de 9 à 10 sur France Culture, et dans la récente, la dernière donc émission, Alain Finkielkraut, le philosophe et animateur de radio, Alain Finkielkraut a tenu des propos qui ont étonné, surpris et choqué quelque peu Dominique Vidal. Donc voilà, on va pas revenir sur tout le différent et la polémique et le débat tout simplement. Je vous encourage cependant à aller le réécouter, l'émission d'hier. Vous pouvez la réécouter sur France Inter ou sur là-bas.org pour avoir la réponse donc de Dominique Vidal. Mais si vous voulez entendre dans son intégralité l'émission donc réplique du samedi précédent, ben vous pouvez aller sur le site Radio France à la rubrique France Culture. Voilà, vous avez les moyens de tout savoir en tout cas. Et voici les réactions parmi celles nombreuses qui ont failli faire éclater la boîte vocale de là-bas si j'y suis, dont je rappelle le numéro 01 56 40 37 37. C'est parti.
Oui, quel plaisir d'entendre à nouveau Finkielkraut, une émission du samedi matin que je ne manquerai pour rien au monde, comme beaucoup de gens autour de moi et un peu partout. Je trouve particulièrement délicieux au début d'entendre Mermet parler de lui en disant l'animateur qui sort de son rôle supposé de neutralité. Ça ne manque pas de sel quand on écoute de temps en temps l'émission de Mermet. Alors lui, pour la neutralité, il se pose un peu là. Il faut ajouter que, en général, Finkielkraut invite deux personnes. Hein. C'est pas une personne, c'est rare. Une personne, c'est que l'autre est défaillante. En général, c'est deux personnes, une d'un avis et l'autre d'un autre avis. J'attends que, je sais pas, Pascal Bruckner, par exemple, soit invité en face de quelqu'un d'autre chez Mermet. Ce serait pas mal. Hein. La démocratie, c'est un vilain mot, je sais bien, mais bon. Alors, comme ça, j'ai eu des nouvelles un petit peu du monde diplomatique que j'ai lu pendant des années, que je ne lis plus, comme la plupart des gens autour de moi. Je lis Charlie Hebdo, qui est un journal à acheter absolument, à défendre absolument. Le Monde et Libé, mais ça, c'est des vieilles affaires. Je trouve aussi, il y a un moment très drôle quand à propos de Bernard-Henri Lévy, en disant que parfois il est bon, ah, c'est bien, venant de cette émission où je l'ai entendu démolir combien de fois, même une émission spéciale ou deux. Alors voilà, j'attends le moment, avec impatience, le moment où Finkielkraut va devenir une victime, parce que les victimes, il n'y a que ça de bon. Encore un petit effort, ça va être une vraie victime et tout le monde lui viendra à sa rescousse. Allez, continuez comme ça, vous êtes bien mal barrés.
Bonjour à tous, et bien écoutez, nous sommes le jeudi 11. J'ai besoin de le dire parce que je viens d'écouter votre émission, c'est pour moi une émission d'anthologie. Faut bien l'avouer, j'ai exulté de plaisir. Je ne sais pas si d'autres personnes vous ont contacté en tous les cas pour signifier un petit peu la même chose que moi, mais voilà, j'étais au bureau. Il m'a fallu d'ailleurs ne pas trop mettre de son, mais j'étais vraiment dans l'écoute et j'ai trouvé votre émission magnifique. L'intervention d'ailleurs de Dominique Vidal a été très instructif. Bien que ces choses-là, malheureusement, on les connaisse déjà, mais il vaut toujours mieux les répéter, et c'est vraiment important. Mais là, franchement, ça a été un moment de pur plaisir. J'aimerais bien que vous me passiez, parce que franchement, j'ai pris un pied pas possible. Encore, 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 Daniel. Merci beaucoup à tous. Sublime émission, sublime, modeste et géniale. Ciao.
Oui, bonjour, Félix de Lombès dans les Bouches-du-Rhône. Je vous appelle suite à l'émission de jeudi avec le Monde diplomatique. Je suis un ancien abonné de cette revue et je remarque que leurs anciens démons sont toujours là. C'est surtout pour l'intervention de Dominique Vidal que j'appelle. Autant je suis tout à fait d'accord avec lui quand il met en évidence la dérive droitière et nauséabonde d'Alain Finkielkraut. Autant il y a quand même quelques contre-vérités qu'il annonce, qu'il faudrait quand même rectifier. Quand il dit qu'Ariane Falachi, a été vraiment soutenu par Charlie Hebdo parce qu'un article lui a été consacré, il passe sous silence tous les articles violemment critiques qui ont fait suite, notamment ceux de Philippe Val, le rédacteur en chef. Donc ça, bon, ben, je mets ça plutôt sur le compte de l'ignorance de Dominique Vidal. Par contre, quand celui-ci dit que Charlie Hebdo est un journal qui est devenu anti-musulman, c'est quand même une énormité qu'on ne peut pas laisser passer. Charlie est un journal qui s'attaque à tous les intégrismes, tous les fanatiques. Et c'est vrai que, bon, ça peut être l'intégrisme juif ou chrétien, et dans ce cas-là, le monde diplomatique, ou même là-bas, si j'y suis, il n'y a jamais trouvé quelque chose à dire. Par contre, il tape également sur le fanatisme musulman. Et de faire un amalgame aussi grossier, c'est faire preuve, pour quelqu'un qui, je pense, est intelligent, faire preuve quand même d'une bêtise crasse, ou alors vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle déplorable.
Bonjour, je suis bien content que l'émission d'hier se soit arrêtée sur le cas Finkielkraut. J'étais scandalisé par cette émission sur France Culture, mais je suis scandalisé tous les samedis. Monsieur Finkielkraut était particulièrement chaud la semaine dernière, mais ses positions extrêmes, il les distille samedi après samedi, interview après interview. Monsieur Finkielkraut est un 33 tours rayé. Il est obsédé par les guignols de l'info qui ont détruit la politique, les jeunes musulmans des cités qui ont détruit l'école, et plus généralement, la culture française, les jeunes noirs qui portent des capuches, et Dieudonné qui est leur chef. Pour ma part, je pense que M. Finkielkraut souffre d'un symptôme paranoïaque aigu qu'il perçoit la réalité par le prisme de ses démons personnels. Il est animé par la colère, un désir de revanche mortifère, une indignation dont il est persuadé qu'elle est légitime, bref, par des sentiments qui l'aveuglent et l'empêchent de vivre en paix. Sans remonter au légitimisme, M. Finkielkraut, dans sa grande frousse de l'autre, de l'avenir et surtout de son ombre, nous rappelle de grandes figures de la République, telles que Maurras, Doriot, Pétain, ou plus proche de nous, Jean Royer, le maire de Troyes, qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petit. Rappelez-vous comme Jean Royer nous assurait que le rock'n'roll était un signe évident de décadence, que les jeunes ne pensaient qu'à fumer du hakik, que la libération des femmes était une distorsion de la nature et que certains films ne devaient pas être vus. Comment les appelait-on ces gens qui, à l'époque, détestaient déjà les Arabes? Des vieux cons, si je me souviens bien. Eh oui, la vie avance et les vieux cons demeurent. Merci, au revoir.
J'ai peut-être choqué votre opinion, mais je trouve tout à fait normal la position de M. Finkielkraut, d'autres personnes du reste. Je considère que l'Europe, notamment l'Europe et les pays de l'Occidentaux, ont une culture quand même basée sur des artistes. Nous avons eu Mozart, nous avons eu des gens comme ça, nous avons eu des grands peintres, nous avons eu des grands chercheurs, des scientifiques, je ne les nommerai pas. Il n'y a aucune raison que cette culture soit dominée par une culture complètement moyenâgeuse qui vienne des pays arabes et d'Afrique. Ceci étant, je considère qu'il y a effectivement un délit de racisme à partir du moment où des gens qui viennent des pays africains ou nord-africains ont des compétences égales et sont mis de côté. Et ça, ce n'est pas normal. Mais c'est pas aux pays occidentaux de se faire dominer par des gens qui ont encore des mœurs tribales et des comportements moyenâgeux. Voilà ce que je voulais dire. Bien, bonne journée, au revoir.
Voilà un échantillon de réactions suite à l'émission d'hier avec le monde diplomatique. Et je vous rappelle que l'émission d'Alain Finkielkraut, c'est tous les samedis matin sur France Culture à 9h et ça s'intitule Réplique. Alors, encore quelques messages. On va aller faire un petit tour dans le monde arabe, mais sous un angle un petit peu inattendu. Je vous laisse la surprise. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Il y a eu beaucoup de messages, mais là, on n'a pas le temps qu'on souhaiterait. Beaucoup de messages concernant les déclarations du ministre du budget, François Copé, concernant les revenus des professeurs et des fonctionnaires. Ça a pas mal chauffé. On en passera, je pense, quelques-uns lundi. Encore quelques messages, donc, et puis une petite balade spéciale.
C'est pour vous dire que vendredi 12 à 20h, le repère de la Bassigie suit de Pujol se réunira et nous allons parler de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Et donc, là-dessus, je vais prendre ma douche. Voilà. Et à demain soir et j'espère qu'on sera nombreux.
ce matin, il me semble que j'ai vaguement entendu à la télé dans la rubrique sportive sur France 2 qu'on parlait de Sonia Awa. J'écoute les infos depuis ce matin, personne n'en a parlé. Elle est dans un lit d'hôpital, elle ne sait pas si elle retrouvera ses jambes et personne ne dit rien. Zidane met un coup de tête, on en parle partout. Elle nous a fait rêver, elle nous a fait gagner une médaille aux Jeux Olympiques et personne ne dit rien. Depuis ce matin, j'écoute la radio. Alors moi, je veux lui lancer mon soutien, lui dire merci et croire avec elle qu'elle retrouvera ses jambes et qu'elle nous fera encore rêver. T'es dans ton lit, on pense à toi et voilà. Et si les médias le disent pas, moi je le dis sur ton antenne, Daniel. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel. Je téléphone parce que je viens d'écouter les nouvelles sur France Inter, bien sûr. Et il y a un truc qui m'amuse quand même, là. Ils viennent d'annoncer, je me demande le bilan Sarkozy. Je me demande comment il le fait, là, la baisse de la délinquance. Parce que les agressions contre les personnes ont augmenté. Et alors, les vols de métaux ont augmenté de 110%. À mon avis, je crois que les délits qui ont diminué sont les vols de pommes dans les supermarchés, peut-être, etc. Enfin, je ne sais pas, ou alors il trafique ses chiffres, mais je ne pense pas qu'il aurait l'outrecuidance de faire un truc pareil. Allez, on continue. Bonne journée, c'était Maurice Anduze.
Dis, Daniel, tu pourrais cesser d'employer l'expression « diverses et variées » parce que si c'est divers, c'est varié. Voilà. Pléonasme. Salut mon grand, continue.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Martine Fontanille. Les mille et une nuits dans le jardin parfumé.
Flight number 2, arriving from New York.
Mais à ce moment de sa narration, Shahrazad vit paraître le matin et discrète se tue.
Ensorceleuse Shahrazade, au bout de quelle nuit parmi les mille et une nuits dans ce jardin parfumé, non loin de ce jet d'eau délice et sortilège d'un orient de peinture aujourd'hui, évasion sensuelle, histoire de débaucher les oreilles une heure qui renvoie au temps où l'Occident colonial découvrait et peut-être bien s'inventait un Orient bleu profond comme un divan. C'est dans ce jardin parfumé qu'on va se balader avec une superbe, magnifique comédienne qui s'appelle Martine Fontanille et avec un texte de Jean-Luc Borg qui est un malicieux montage entre le merveilleux texte des Mille et une nuits et un texte très très fameux de la littérature amoureuse qui s'appelle Le Jardin Parfumé. Le Jardin Parfumé pour le délassement de l'esprit et qui, dit-on, fut commandé par un grand personnage égyptien à un auteur qui s'appelait le cher Nefzaoui, qui habitait Tunis en l'an 925 de l'Égypte. Et la traduction de ce texte date de 1876, ne fut éditée qu'en 35 exemplaires par le soin de 4 officiers formant une société JMPQ et illustrée d'un portrait du cher Nefzaoui et de 13 planches hors texte et de 43 dessins. Le jardin parfumé fut divisé en 21 chapitres qui contiennent toutes sortes de conseils techniques et des histoires fatalistes comme celle du bouffon Baloul qui jouit plusieurs fois de Hamdouna, femme d'un vizir. Elle dit à sa suivante qui lui reprochait de s'être abandonnée à un bouffon, écoutez, toute vulve porte inscrite à son ouverture le nom de celui qui doit y entrer. Ça vous dit rien, mécréant. Sauf qu'il s'agit là d'une paraphrase de la parole de Mahomet qui dit « Tout homme porte inscrite sa destinée sur son front ». Ainsi était le cher Nefzaoui qui enseigna les 6 mouvements en usage dans le coït, les 11 positions propres aux Arabes et les 29 employés par les peuples de l'Inde. Or, à la même époque, on découvrait, et ça c'était les Anglais, en 1883, ils découvraient quoi donc ? Le Kama Sutra. Et oui, il n'y avait pas que, il y avait nous aussi dans nos colonies à nous. Tant mieux. Tant pis, ça nous donne une heure de plaisir, d'un Orient encore une fois, un peu de carte postale, mais de délices. Les mille et une nuits dans le jardin parfumé. Qu'il y avait dans l'antiquité du temps et le passé des siècles et des âges un roi. Son nom était le roi Shahriar. Chaque jour, il ordonnait à son vizir de lui trouver une jeune fille vierge. À l'arrivée de la nuit, il lui ravissait sa virginité. Et la nuit écoulée, il la tuait. La cause de cette conduite sombre et sanglante est tenue secrète dans les annales des épopées anciennes. En près de 3 ans, 1000 jeunes filles perdirent leur hymen en même temps que leur vie. Dans tout le pays, on ne trouvait plus jeunes filles vierges, car ou elles étaient mortes, ou elles s'étaient enfuies. Ce jour-là, comme l'habitude, le roi demanda à son vizir de lui trouver une adolescente, mais le vizir n'en trouva point et revint au palais l'âme pleine de terreur à cause du roi. Or, ce vizir avait lui-même une fille qui était versée dans la connaissance des livres anciens et les secrets des rois du passé. Son nom était Shahrazade. Lorsqu'elle vit son père, l'âme pleine de chagrin, elle lui en demanda la cause, et le vizir lui raconta toute l'histoire du roi Shahriar.
Alors, Shahrazade dit, « Père, marie-moi avec ce roi, car ou je serai la cause de la délivrance des filles des musulmans, ou je mourrai. » Le père protesta un petit peu, puis monta prévenir le roi. Le soir arrive. Shahrazade, ornée de son petit voile de visage, monte chez le roi. Et dès que le roi Shahriar voit Shahrazade, il est ravi, à la limite du ravissement.
Shahrazade est belle comme la lune en sa 14e nuit. Ses yeux sont ceux de la gazelle apeurée. Ils ont de longs cils recourbés. Elle a des seins qui troueraient les étoffes les plus dures. Sa taille est si fine que le soleil ne saurait allonger son ombre sur le sol. Le roi Shahriar s'approche de Shahrazade. Il lui enlève son petit voile de visage. Des yeux, il déguste les lèvres de Shahrazade qui sont comme deux pétales de rose humide abritant une langue vermeille. Et en regardant cette bouche de délice, il peut deviner les beautés de sa vulve. Elle est très potelée, rebondie dans toute son étendue. Elle a les lèvres longues, la fente grande, des bords écartés parfaitement symétriques. Elle est moelleuse, séduisante, chaude. On dirait que le feu va en jaillir. Sa forme est gracieuse, son odeur suave. Et sa blancheur fait ressortir son milieu carminé. Shahrazade s'allongea nonchalamment sur le lit et écarta légèrement les cuisses. À la vue de cette chair de Ouria, le roi Shahriar sentit le désir faire le tour de son corps et soulever l'enfant endormi. Aussitôt, il se leva et se déshabilla. Il se mit à badiner Shahrazade de toutes les façons possibles. Il lui prodigua les baisers sur les deux joues, le cou, la bouche, et lui suça sa lèvre fraîche, ce qui fit dresser sur le champ l'instrument du roi Shahriar. Alors, l'objet dressé se mit à voltiger tout autour de la vulve de Shahrazade. Les mouvements des deux amants étaient accompagnés de douces paroles, de miaulements, de couinements, de rires, de baisers, de regards noirs, de succions, d'humidité et d'agrippement. Ils furent ainsi tous deux en état de combustion. Alors, Shahriar renversa Shahrazade sur la couche et fondit sur elle. Il s'accroupit les jambes écartées. saisit les cuisses de Shahrazade et les attira à lui en les écartant. Shahrazade en profita pour prendre la verge du roi. La tâta, la manipula, la pétrit, la trouva si belle que sans plus de façon elle se l'attribua. Elle se délecta de cet outil qui était mieux qu'un outil fait sur mesure, car en grandeur et en largeur, il s'adaptait à merveille. Puis, le bélier du roi pointa dans la direction du fort. Il s'enfonça dans la brèche, et la brèche aussitôt céda. Shahriar exulta en constatant que la perle était imperforée, et au comble de la jouissance, il lui ravit sa virginité. Et clou sur clou, le bélier fonctionna 15 fois de suite à entrer et à sortir, sans répit ni repos, faisant ronfler sans arrêt le fuseau du jouvenceau, entrer le doigt dans l'anneau, reposer l'enfant dans son berceau, s'embrasser les deux jumeaux, serrer le clou dans l'étau, avancer le cou du chameau, becqueter la moinelle par son moineau, pépier dans son nid tout chaud le bel oiseau, se gorger de grains le pigeonneau, brouter le laprou, ruminer le veau, sauter le chevreau, s'appliquer la peau sur la peau, jusqu'à ce que le père des assauts, qui n'était jamais en défaut, ne cessa de lui-même de jouer du chalumeau.
منحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية منحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية منحرمش العمر منك يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي
شهرزاد profita de ce repos pour dire au roi Shahriar « Ô mon roi courtois et doué de belles manières, si vous me le permettez, j'ai envie de vous raconter une histoire. » Et comme le roi avait de l'insomnie, il dit « Oui. » Et cette nuit-là, Shahrazad commença le conte suivant. « Il m'est parvenu, ô roi fortuné, une histoire si étrange que si elle était écrite avec la pointe d'une aiguille sur le coin intérieur de l'œil, elle ouvrirait le regard de qui veut la lire. »
Et l'histoire que raconte Shahrazade au roi est l'histoire d'un jeune homme qui aimait la vie de solitude et le célibat, mais qui avait envie aussi de prendre femme. Or, aux femmes, il n'y connaissait rien. Il n'entendait rien en cette matière. Il eut l'idée, cependant, d'aller voir une femme experte qui s'appelait Leïla, c'est-à-dire
qui avait le même nom que la femme du prophète. Leïla était une femme poète. Il alla la voir et après les salams, elle lui parla en ces termes.
La femme est comme un fruit qui ne laisse échapper sa suavité que si tu la frottes avec tes mains. Vois le basilic, si tu ne l'échauffes pas avec tes doigts, il ne laissera point exhaler ses parfums. De même, la femme, si tu ne l'animes pas de tes patineries, il ne naîtra dans son cœur ni penchant ni amour pour toi. Et toutes ces qualités te resteront cachées. Donc, il convient avant l'introduction de ton membre que tu l'excites par tes baisers sur ses joues, par le sucement de ses lèvres, par l'humement de sa fraîche salive et par le mordillement de ses seins. Tu lui prodigueras les baisers sur le nombril et sur les cuisses, ainsi que les agaceries sur le bas-ventre. Pousse tes soupirs, parle-lui, enlace-la de tes jambes, étreins-la dans tes bras. Lorsque tu auras vu les yeux de ta femme mourant, languissant, tu sauras qu'elle désire le coït. Alors que vos deux désirs n'en fassent plus qu'un, et que votre lubricité soit portée au plus haut point. Lorsque la cessation de la jouissance aura mis un terme à vos ébats amoureux, garde-toi de te lever brusquement. Enjoins ta femme de serrer ses cuisses sur ton instrument afin qu'il passe par un orifice étroit. Tu le retireras tout doucement de son fourreau. Reste près de ta femme. Couche-toi sur le côté droit, car c'est ainsi que vous trouverez le bien. Évitez tous deux après la copulation un travail violent qui pourrait avoir sur votre santé une influence fâcheuse. Mais abandonnez-vous au repos un moment. Mais à ce moment de sa narration, Shahrazad vit paraître le matin et discrète se tut. Le roi Shahriar se dit en lui-même : je ne la tuerai que lorsque j'aurai entendu la fin de cette histoire, et il s'en alla présider à ses affaires.
Contes érotiques arabes, jardins parfumés, mille et une nuits, avec Martine Fontani, alias Sheherazade. Nous voilà dans ces parages, dans le jardin parfumé, le livre, le jardin parfumé. On enseigne des choses tout à fait surprenantes et qui pourraient vous intéresser un jour. Par exemple, comment s'assembler lorsqu'on est un homme obèse et une femme maigre, mais aussi comment faire lorsque l'homme est gras et la femme également grasse, ou bien lorsque la femme est très grande et l'homme très petit, et lorsque chacun est bossu, l'homme bossu et la femme bossu. Voilà des questions qu'on peut se poser parfois dans la vie. Eh bien, le jardin parfumé, cet ouvrage porté à la connaissance du monde grâce à une traduction à la fin du siècle dernier, apportait des réponses. Et on y découvrait également les penchants d'un personnage tout à fait singulier et à certains égards attachant, qui s'appelait le calife Haroun al-Rachid.
Le calife Harun al-Rachid était un fornicateur très impressionnant. Or, une nuit d'entre les nuits, le calife se trouvait entre deux belles adolescentes qu'il aimait également, dont l'une était de Médine et l'autre de Koufa. Il ne pouvait pas exprimer sa préférence quant à la terminaison finale. Il décida que le prix reviendrait à celle qui le mériterait le mieux. Aussi, l'esclave de Médine commença par lui prendre les mains et se mit à le caresser gentiment. L'esclave de Koufa, elle, était couchée un peu plus bas. Alors elle prit les pieds du calife Harun al-Rachid et se mit à les masser. Mais très rapidement, l'une de ses mains s'égara vers la marchandise du haut et commença à la soupeser. Et grâce à ce soupèsement délicat, la marchandise grossit de poids considérablement. Aussi, la prit-elle dans le creux de ses mains pour la cacher. L'esclave de Médine la regarda et lui dit « Je vois que tu veux garder pour toi seul le capital et que tu ne songes même pas à m'abandonner les intérêts. » Et elle repoussa sa rivale et prit à son tour la marchandise dans le creux de ses mains. Alors l'esclave de Koufa dit « Je vois que tu ne connais pas les paroles du prophète qui dit « Celui qui fait revivre une terre morte en devient le seul propriétaire. » L'esclave de Médine n'en lâchait pas pour autant la marchandise. Et elle aussi était fort versée dans la connaissance des paroles du prophète. Et elle lui répondit « Le gibier n'appartient pas à celui qui le lève, mais à celui qui le prend. » Et le calife Harun al-Rachid fut si content de ses propos fort pertinents qu'il décida cette nuit-là de les satisfaire toutes les deux. Il les déshabilla très cérémonieusement et il vit qu'elles étaient d'une beauté douce et blanche comme un tissu de lin et qu'elles répandaient de toutes parts la suave odeur de l'ambre. Il les pressa dans ses bras et les enlacements ne cessèrent de succéder aux embrassements, les baisers aux caresses, les copulations aux foutreries pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'un peu fatigué de leur transport et de leurs multiples ébats, ils se fussent endormis tous les trois, dans les bras les uns des autres, ivres de jouissance.
عزا انحرمت الهنا 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 من بعدك لمين الزهر بينحني وبتشرب لمين شمسك يا دني من بعدك لمين الزهر بينحني وبتشرب لمين شمسك يا دني.
Elles étaient venues du monde entier, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, son regard fut attiré par un groupe de jeunes filles à nul autre pareil. Elles avaient de longues chevelures d'or, des yeux clairs comme la turquoise iranique encore humide au rocher. Elles étaient comme des étoiles dans la nuit. Elles avaient des corps légers, fuselés, brillants, blancs comme du vierge argent, des tailles flexibles, des visages de lune, des bouches, des camomilles en fleurs, des seins, des grenades jumelles et des cuisses, de beaux morceaux d'ivoire. Et quant à leurs fesses, elles étaient de bonne nature. Et quand elles s'élevaient, s'abaissaient, on les aurait prises pour les vagues d'une mer de cristal. Le jeune homme était décidé à prendre femme parmi l'une de ces jeunes filles, mais il ne savait laquelle choisir, car elles se ressemblaient toutes comme si elles étaient du même père et de la même mère. Or, il se souvint que Leïla lui avait dit que chaque femme a une vulve différente et qu'à regarder sa bouche, il pourrait en deviner la constitution. Devait avoir une partie intime qui porterait bien le nom de gloutonne, c'est-à-dire celle qui a un vaste gosier. Si le coït vient à lui manquer quelque temps et qu'un membre s'approchant d'elle arrive près de sa bouche, elle l'avale à l'instant même et n'en laisse pas la moindre trace. La seconde, il devait avoir un fourreau méritant le nom d'arrosoir. C'est une vulve dont certaines femmes sont dotées et qui, lorsqu'elles urinent, fait entendre à son orifice un bruissement sonore et retentissant. Il pensait que la troisième devait avoir une âme tendre du nom de mordeur. C'est celle qui, lorsque le membre y a pénétré, alors qu'elle brûle d'une violente passion, se met dans son ardeur à s'ouvrir et à se fermer sur ce membre. C'est surtout à l'approche de l'éjaculation que l'homme peut sentir la tête de son membre mordue par la matrice. Et il vit ainsi défiler dans ses pensées des vulves, qui aurait pu se nommer pour l'une la primitive, une autre celle qui a un petit nez, une autre la libidineuse, ou le tourneau, le hérisson, le fuyard, la fente, celui qui a une crête, le broyeur, l'importune, l'horreur, le désirant, le beau, le gonfleur, le sans-fond, le crible, le remueur, l'annexeur, l'accommodant, l'aidant, le résigné, le juteux, le suceur, le chaleureux. Mais le jeune homme est attiré par l'une des jeunes filles dont la partie chaude aurait pu se nommer le délicieux. Une telle partie chaude s'ouvre et se ferme lorsqu'elle éprouve un violent désir du coït, comme la fente de la jument en chaleur à l'approche de l'étalon. Ce délicieux est réputé pour procurer un bonheur sans égal, comparable seulement à celui que ressentent les animaux féroces et les oiseaux de proie, et pour lequel ils se livrent des combats acharnés. Et si un pareil effet en résulte chez les animaux, que doit-il en être pour l'homme ? Ah. jeune fille se détendit complètement. Et sa partie chaude se troubla. L'appétit se leva entre ses deux cuisses. Elle dénoua ses lacets, retroussa ses vêtements dénudant ses deux jambes. Elle se mit à marcher en roulant des hanches et en se balançant légèrement. Le jeune homme la suivit en se demandant s'il rêvait. Elle l'amena dans son cabinet particulier. Elle se laissa tomber sur le lit de soie. Elle ôta les jupes qui lui couvraient les cuisses et se dénuda complètement. Le jeune homme la regarda et son regard se heurta à la fente qui se dressait au milieu des deux cuisses, tel un monument grandiose. Comme elle était belle, cette fente, comme elle était florissante, comme elle était haute. Il interrompit son voyage pour s'arrêter en ce lieu, baisa de multiples fois le monument et se mit à y frotter sa joue. La jeune femme, ivre de désir, se mit à élever puis à abaisser son appareil, à le secouer comme un crible, à le faire ondoyer, à l'arrondir, pendant que son ouverture s'agrandissait et se fermait successivement. Le jeune homme sortit son instrument dressé tel une colonne. Il lui dit « Il est à toi. Agis comme tu le veux. » Elle se jeta sur son instrument, le saisit d'une main et se mit à l'examiner, s'émerveillant de sa forme et de sa taille gigantesque. Elle le frotta sur les lèvres de sa partie chaude. Soudain, elle s'abaissa sur lui avec force. L'instrument disparut dans son ventre, sans laisser aucune trace visible. Elle regarda. Les deux touffes de poils étaient collées l'une à l'autre. Il s'étonna de voir que sa partie chaude avait englouti un tel monument. Elle se resserra, fit entendre une plainte, aspira, ronfla, renifla, se mit à pilonner, à piloter, griffer, secouer, à gripper, avaler le membre de sa fente, peser de toutes ses forces désirantes, puis s'envoler et l'enfoncer violemment, onduler en avant, en arrière, à droite, à gauche. L'instrument entrait et sortait en roucoulant jusqu'à ce que s'annonce l'approche de la joie. Le noir des yeux de la femme s'évanouit dans le blanc. Elle poussa un couinement, puis aspira l'air en un chant. L'appétit des deux amants se fondit dans l'humidité d'une étreinte paisible. Mais, ô mon roi, dit Shahrazad, cette histoire n'est rien comparée à celle que je vais te conter.
Et ça commence. C'est maintenant que ça commence. Merci à Martine Fontanille, le jardin parfumé, manuel d'érotologie arabe du cher Nefsaoui. Vous pouvez le trouver en livre de poche. Et les mille et une nuits, il y a de nombreuses éditions, mais on connaît celle de Phébus, édition Phébus. Toutes les informations concernant les repères des amis de la Basse Ujivi sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse Ujivi ou bien sur labas.org, www.la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Eric Mainviel, Dimitri Gronoff, c'est Yann Chouquet, Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert se tiendra jour et nuit jusqu'à lundi 15h auprès du répondeur à l'écoute de vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.